Fabrique ton média, une émission spéciale.
Hello everyone, c'est Morgane. Je suis ravie de vous présenter cette émission spéciale Fabrique ton média avec les 24 élèves de la classe de 4ème 3 de notre collège. Notre studio est plein à craquer et tout le monde est ravi d'être là, n'est-ce pas l'équipe?
Oui!
Quel enthousiasme, j'adore! Thierry Collin, journaliste du Média Radio ici Sud-Lorraine, est également avec nous. Il nous a aidé à réaliser cette émission dans le cadre du projet académique Fabrique ton média. L'objectif de ce projet était simple. Grâce au conseil du journaliste qui nous suit dans notre projet et de nos professeurs de français et d'éducation aux médias et à l'information, nous avons produit notre propre émission radio que nous vous présenterons maintenant. Bienvenue à Monsieur Collin et merci de nous accompagner dans ce projet. Nous vous interrogerons un peu plus tard dans notre émission pour savoir ce que vous pensez de ce projet et de notre travail. Notre ligne éditoriale est simple. Proposer des sujets qui vous intéressent, voire qui préoccupent les jeunes. Notre auditoire, les jeunes, mais aussi les adultes, afin qu'ils nous comprennent mieux. Nous allons parler de sujets assez durs comme le mal-être adolescent ou le TDAH. Puis nous aborderons un sujet plus joyeux comme ce que pourrait être une école idéale. Nous mettrons également en avant les passions, les talents et l'engagement des collégiens, l'équitation, football et les jeunes sapeurs-pompiers. Nous parlons évidemment de la série à succès qui passionne énormément de jeunes, Stranger Things, dont le dernier épisode a été diffusé le 1er janvier dernier. Puis nous conclurons notre émission avec un échange avec notre journaliste partenaire. Vous écoutez l'émission spéciale Fabrique ton média, c'est parti! Dès le début de notre conférence de rédaction, un sujet a intéressé toute l'équipe, le mal-être adolescent. Marie-Lie, Gus et Wassim se sont donc penchés sur le sujet avec notamment des témoignages poignants.
Bonjour, nous sommes Wassim, Gus et Marie-Lie. Nous nous sommes interrogés sur un problème qui concerne 1 à 2% des élèves de l'école maternelle au lycée. Selon l'INSERM, la phobie scolaire, qu'on appelle aussi refuge scolaire anxieux. Avant d'aborder plus précisément le problème, nous avons interrogé quelques élèves de notre collège pour savoir s'ils avaient peur de venir à l'école. Nous avons modifié leur voix pour protéger leur anonymat.
Non, parce que je ne me fais pas harceler.
Oui, parce que quand j'étais en primaire, je m'étais fait harceler et j'avais peur de quelqu'un parce qu'il m'intimidait.
Bah non, parce que j'ai peur de personne.
Oui, car certains profs étaient méchants avec moi, des élèves se moquaient de moi. Et je faisais beaucoup de bêtises, donc j'ai peur des conséquences.
J'avais peur d'aller à l'école parce que à cause de mon problème de taille, vu que je suis assez petit, c'était pas facile à vivre.
Moi j'avais pas forcément peur, mais j'avais plus envie d'y aller parce que j'étais démotivée, je trouvais pas de but.
Moi non, j'ai pas peur parce que je suis pas harcelée.
Non, j'ai pas peur parce que je me fais pas embêter.
Non, car on ne m'a jamais embêté.
On constate que les élèves qui ont peur de venir à l'école le sont généralement parce qu'ils ont peur des autres, car ils sont ou ont été embêtés par les autres. Il y a aussi le manque de sens que peut représenter l'école. Mais le refus scolaire anxieux est plus grave. Le neuropsychiatre Dr Ajuria Guerra explique qu'il s'agit de jeunes qui, pour des raisons irrationnelles, refusent de se rendre à l'école et résistent avec des réactions d'anxiété très vives ou d'angoisse si on les force à y aller. En d'autres termes, c'est une émotion très intense, incontrôlable, qui peut provoquer une forte angoisse à un enfant ou à un adolescent à l'idée d'aller à l'école. Les experts ont constaté que les causes de ce trouble étaient multiples. La plupart de ceux qui en sont atteints ont été victimes d'insultes, de menaces ou de harcèlement. Ou alors on s'est moqué d'eux en raison de leur handicap, de difficultés d'apprentissage ou même de leur intelligence.
Ce trouble se développe surtout vers 11-12 ans, en lien notamment avec des problèmes personnels, familiaux, la dépression, la phobie sociale ou encore l'environnement scolaire. Les conséquences sont graves. En plus des cours manqués, l'élève s'isole et perd confiance en lui. L'enfant a alors souvent besoin de longs soins. Il faut donc repérer le plus tôt possible ce trouble pour éviter qu'il ne s'aggrave. Madame Gosset, infirmière dans notre collège, nous explique comment elle agit face à ces problèmes.
Alors avant d'arriver à la phobie scolaire, on a d'abord des signaux qui nous alertent. Par exemple, la baisse des résultats, de l'isolement, des absences et puis du mal-être qui peut nous alerter également. Si nous n'avons pas ces signaux-là et que malheureusement l'élève vient de moins en moins, on va essayer de comprendre aussi ce qui se passe, d'abord d'échanger avec l'élève et puis de savoir quelle est la raison qui fait que cet élève en question a de moins en moins envie de venir à l'école. Ça peut être aussi du harcèlement, par exemple. Ensuite, on va travailler avec cet élève au maximum pour pas en arriver à une déscolarisation. Travailler avec l'équipe, prof principal, les enseignants, la CPE et moi-même. Et puis bien sûr, on a aussi la psychologue scolaire et l'assistante sociale pour trouver une solution, en fait, pour que cet élève n'échappe pas complètement au système scolaire. Et on espère qu'avec tout ce travail-là, on arrivera à retrouver l'élève sur les bancs de l'école.
On peut donc aider à lutter contre la phobie scolaire en étant à l'écoute, en aidant ceux qui ne vont pas bien. À l'école, des aménagements leur sont proposés. Mais il faut aussi souvent un accompagnement psychologique. Vous aurez donc compris que le refus scolaire anxieux est une vraie maladie et que ça n'a rien à voir avec un simple refus de venir à l'école.
Merci pour ce sujet très utile. Il est en effet essentiel de prévenir, de repérer et de savoir intervenir avant que la situation ne se dégrade. Il faut oser parler de son mal-être, d'autant plus que l'adolescence est une période qui n'est pas évidente à gérer. Du mal-être adolescent, passons aux troubles qui peuvent les toucher, comme le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, communément appelé TDAH, qui touche 5% des enfants. Lucie, Maëlle, Enzo et Cléa nous le présentent avec des témoignages très éclairants.
Salut, aujourd'hui on va vous parler du TDAH, qui veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un sujet important, car 5% des enfants et adolescents en sont atteints selon le site gouvernemental Mon Parcours Handicap. Parfois, sans que les autres ne le sachent. On entend souvent qu'ils sont trop agités, qu'ils ne font pas attention, qu'ils ne font pas d'efforts pour se concentrer, mais en réalité, ce trouble ne les empêche d'être concentrés comme les autres élèves. Et ce n'est pas une histoire de volonté. Nous avons interviewé deux élèves TDAH pour savoir comment se manifeste ce trouble.
Et ce trouble se manifeste par une perte de l'attention constante et que je dois toujours avoir quelque chose dans la main pour essayer de me calmer, tout comme ça. Et je ne réponds pas souvent parce que j'aime pas ça en fait. Vu que je perds souvent l'attention à cause de mon trouble mental, et bah c'est très difficile pour moi de rester concentré à propos d'une question longue et je me lasse assez vite. En fait, j'ai pas de médicaments pour l'instant, mais je vais peut-être en avoir à l'avenir. Aménagement pareil.
Ça va. Même si parfois j'oublie des trucs, voilà, ça va. Quand j'avais vraiment le TDAH, quand on venait de le découvrir, je prenais un gros médicament, voilà. C'était pour me concentrer, mais sinon moi je le prends plus parce que ça va mieux.
Les deux élèves ont su s'adapter à leurs troubles. Mais de quoi s'agit-il précisément, Maëlle ?
Le TDAH n'est pas un choix, c'est un trouble qu'il faut apprendre à gérer. Les personnes qui ont un TDAH ont un cerveau qui fonctionne différemment. Elles peuvent avoir du mal à se concentrer, à rester en place ou à terminer un travail. Même si elles veulent écouter et bien faire, ça peut être très compliqué pour elles, surtout pendant les cours comme nous l'explique Enzo.
Au collège, le TDAH peut poser des difficultés à l'élève puisqu'il aura tendance à oublier ses affaires, à se déconcentrer vite ou encore à se faire remarquer en classe. Mais le TDAH peut aussi avoir des aspects positifs. Les élèves concernés peuvent par exemple être très créatifs et aussi exploiter leurs excès d'énergie. Pour les aider en classe, ils peuvent bénéficier d'aménagements. Madame Leroy, la principale, nous explique ce dont il s'agit.
Il y a tout un parcours qui est fait par l'élève et sa famille et l'école pour que ce soit diagnostiqué. Et c'est des spécialistes qui vont dire, voilà, il a besoin de telle chose. Il a besoin d'un aménagement, de temps en plus, de moins d'exercices, de quelqu'un qui est là pour l'aider à rester concentré. À l'école, tout ce qu'on peut faire, nous, à un moment donné, c'est prendre en compte les demandes qui sont formulées par les spécialistes pour accompagner chaque enfant individuellement et essayer d'y répondre au mieux.
Tout est fait pour que ces élèves puissent apprendre avec les mêmes chances que leurs autres camarades. Cela peut prendre la forme de temps supplémentaire pour les évaluations, de l'aide d'une AESH pour certains, de matériel pédagogique adapté pour d'autres, d'aménagement de leur environnement de travail, des consignes avec des aides visuelles, etc. On les aide pour qu'ils puissent réussir comme nous tous, n'est-ce pas Cléa ?
En effet, les aider est essentiel pour qu'ils soient à égalité de chance avec nous. Il nous a paru important de vous faire comprendre ce qu'est le TDAH, pour éviter les préjugés et les moqueries. Être plus patient et plus respectueux peut vraiment aider les personnes concernées à se sentir mieux à l'école. Le TDAH ne définit pas une personne, c'est seulement un trouble contre lequel elle lutte. Alors avant de juger, apprenez à connaître et comprendre vos camarades.
Merci à vous d'avoir fait la lumière sur ce trouble. On comprend mieux que l'enfant TDAH a du mal à gérer certains de ses comportements et que ce n'est pas la mauvaise volonté comme on peut parfois l'entendre.
Fabrique ton média, une émission spéciale. Une émission radio réalisée par des ados, pour des jeunes ou des moins jeunes. C'est Fabrique ton média. Au collège de Vittel. C'est Fabrique ton média. Émission spéciale.
Je vous rassure, la jeunesse ce n'est pas que le mal-être, c'est aussi s'amuser et apprendre. Lina, Maëlia et Marilyn nous présentent ce que pourrait être une école idéale après avoir recueilli des idées de collégiens.
Une école idéale, qui n'en a jamais rêvé ? Nous sommes Marilyn, Maëlia et Lina et nous vous proposons une réflexion sur ce que pourrait être une école idéale. Pour cela, nous avons demandé à nos camarades ce que serait une école idéale pour eux. Écoutons-les.
Il faudrait qu'il y ait plus de divertissement, comme que le foyer soit libre service.
Pour plus de cours d'histoire, car ça développerait certaines cultures générales.
Moi, ce serait plus d'activités sportives.
Moins de temps de travail et plus aller au foyer.
Pour moi, il faut plus de temps de récré.
Pour moi, ce serait de pouvoir utiliser son téléphone portable pendant les récré.
Pour moi, il faudrait goûter plein de plats à la cantine.
Ce serait d'aller plus souvent au foyer,
laisser plus de temps pour manger.
Bah, qu'on finisse plus tôt et qu'on commence plus tard.
La durée des cours.
D'après ce micro-trottoir, on identifie trois tendances. Avoir davantage de temps de détente et de divertissement. Avoir plus de temps de repas avec la découverte de nombreux plats. Et aussi une durée de cours moins longue. Nous allons développer chacune de ces tendances en proposant certaines choses. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez.
Commençons par la détente et le divertissement. Le foyer est un endroit très agréable avec ses nombreux jeux, la musique, les livres et magazines. Il serait bien qu'on puisse y accéder librement quand on veut. Quant au téléphone portable, il ne me semble pas utile au collège. Il est actuellement interdit de l'utiliser et je pense que cela est bien.
Passons au travail. Tout d'abord, les horaires. Il serait bien d'avoir l'après-midi libre pour avoir du temps à la maison ou pour d'autres activités comme le sport. Le problème est qu'on ne peut pas mettre tous les cours le matin. Ou alors, il faudrait commencer plus tôt. Mais on se lève déjà trop tôt. Il serait bien aussi de ne pas avoir de devoirs à la maison et que tout soit fait uniquement en classe.
Il y a des matières qu'on adore et on aimerait en avoir plus, alors qu'il y en a d'autres, on aimerait bien qu'il y en ait moins. Mais bon, ces choix sont différents pour chacun. Alors, pourquoi pas une école où chacun choisit ses matières ?
Finissons avec la cantine. On mange déjà très bien en collège, mais ça serait super si on pouvait avoir plus de temps pour apprécier encore plus la nourriture. Et aussi, qu'on nous propose de découvrir plein de saveurs du monde entier.
En conclusion, une école idéale pourrait être une école où on aurait beaucoup de temps de détente et de loisirs. On pourrait également choisir les matières qu'on aime le plus. On garderait une bonne partie de l'après-midi pour des activités en dehors de l'école, comme des clubs, des activités sportives ou culturelles. Aussi, on aurait du temps pour bien manger et découvrir plein de saveurs du monde.
De manière générale, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on ne veut plus de devoirs à la maison.
Une école idéale, ça doit être une école où on prend plaisir à aller. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi y apprendre plein de choses.
Comme on peut le constater, les collégiens ont beaucoup d'idées très diverses. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça en application. Mais il n'y a pas que le collège dans la vie, il y a aussi les loisirs comme le sport. Élise, Clara et Chloé ont décidé de défendre l'équitation que certains ont du mal à considérer comme un sport.
Bonjour à tous, l'équitation est-elle un sport ? Cette question mérite... on s'y intéresse, car il y a beaucoup de préjugés sur cette activité. Nous avons commencé par interviewer des personnes de notre collège pour savoir ce qu'ils en pensent.
Je trouve que c'est un sport parce qu'il n'y a pas que le cheval qui travaille, il y a aussi la personne dessus qui manœuvre le cheval, qui endure les sauts du cheval.
Pour moi, l'équitation, c'est pas un sport, parce qu'en fait, c'est le cheval qui court, qui saute, qui fait tout, en fait. Et l'humain, dessus, il a juste à lever un peu ses fesses, là, pour quand ça galope. Et puis après, sinon, il fait rien. Hein.
C'est un sport parce que le cavalier, il travaille aussi.
Pour moi, l'équitation, c'est un sport parce que c'est nous qui devons diriger le cheval.
Alors, c'est un sport sur lequel il est basé de monter à cheval et de l'emmener au dressage, faire du saut, de faire des courses. Et voilà.
L'équitation, déjà, c'est un sport pour moi parce que j'en fais depuis que j'ai 2 ans et demi. Et c'est dur de sauter un obstacle à 2 mètres de haut avec un cheval qui est assez foufou, on va dire.
On entend que beaucoup considèrent que l'équitation est un sport. Et ils justifient par le travail que cela demande. Mais certains pensent que c'est le cheval qui fait tout. Et c'est généralement le principal reproche qu'on fait aux cavaliers. Peut-être que cela vient aussi de la confusion que font certains entre les balades à cheval et l'équitation.
En effet, l'équitation, ce n'est pas que de la promenade. Cela nécessite une réelle force physique, mais aussi un vrai mental. Nous avons besoin d'être concentrés autant que le cheval. Et surtout, c'est nous qui le contrôlons. C'est un véritable travail en duo. Il y a le cheval et le cavalier. On peut aussi parler d'un art, car on travaille le contrôle du cheval. L'équitation n'est d'ailleurs pas qu'un seul sport. C'est un ensemble de sports. On compte actuellement 34 disciplines équestres. Les plus connues sont celles qu'on peut voir aux Jeux Olympiques. Le dressage, le concours de saut d'obstacle ou le concours complet d'équitation, qui est un mix entre dressage, saut d'obstacle et cross. Mais il y en a plein d'autres, comme l'attelage, la voltige, le reining ou un sport collectif, le polo ou le horseball.
Grâce à toutes ces possibilités, chaque cavalier dispose d'une multitude de choix pour trouver la discipline qui lui convient. Nous, ce que nous aimons tout particulièrement dans ce sport, c'est qu'on peut rencontrer de nouvelles personnes. On apprend aussi à connaître son cheval au fil des séances et il y a un profond lien qui se tisse. C'est aussi un sport très diversifié où on peut choisir différentes disciplines. Alors, si vous aimez l'équitation, faites comme nous. Rejoignez les 675 000 licenciés dans ce sport qui est le troisième plus pratiqué en France.
Du troisième sport le plus pratiqué en France, passons au premier, le foot. Emina Ivan nous présente la préformation de l'ASNL.
Bonjour à tous, je suis Ivan.
Et moi, c'est Emilien.
Passionné de football, nous avons décidé de vous parler du recrutement des futurs talents du football professionnel. Pour cela, nous nous sommes penchés sur le centre de préformation des footballeurs de l'AS Nancy-Lorraine.
C'est un centre dont j'ai la chance de faire partie. Je vais vous expliquer juste après comment j'en suis arrivé là.
Avant cela, commençons par l'interview que tu as faite, Emilien, celle de M. Nabil Tigazoui, qui est à la tête de l'école de foot et de la préformation.
Tout à fait. Pour commencer, il nous explique les étapes de la formation.
Il y a plusieurs étapes dans le cursus d'un footballeur. Il y a d'abord l'école de foot, donc qui comprend toute la primaire. Ensuite, il y a la préformation, donc qui comporte tout le collège, donc des U12 jusqu'au U15. Et ensuite, il y a le centre de formation, donc qui comporte tout le lycée.
La préformation répond à deux objectifs.
L'objectif principal aujourd'hui, c'est de former un maximum de joueurs pour qu'ils puissent intégrer un centre de formation. Mais nous, à l'AS Nancy-Lorraine, notre principal objectif, c'est déjà de former des hommes avant de former des joueurs. Ensuite, il y a la partie sportive qui arrive. Et dans la partie sportive, c'est de faire progresser des joueurs.
Il nous explique ce qui est recherché pour ce recrutement.
On recherche la qualité humaine. Déjà, on cherche des garçons bien polis, des garçons gentils. Et après, si on voit sur le domaine sportif, bah, on cherche des garçons qui sont amenés à ressortir un peu tout ce qui s'est passé à l'école de foot, donc toute la partie technique, donc sur la base. Après, il y a forcément le côté athlétique qui ressort. Mais là, on a besoin voilà, d'avoir une palette assez complète, autant sur le plan sportif que sur le plan mental.
Des qualités sportives, techniques, mentales et un bon comportement. Voilà ce qui fonde un bon joueur. Mais la préparation physique et mentale est intense.
On laisse que le jeudi et le dimanche de repos pour les joueurs. Donc le lundi, on est plus basé sur la technique, donc sur la méthode globale avec la répétition de gestes. Même les gardiens aujourd'hui donc, ont tous leurs spécifiques techniques le lundi soir. Le mardi, on est plus dans l'aspect athlétique. Le mercredi, on est sur l'aspect beaucoup de jeux. Donc on laisse un peu les jeunes jouer librement, sans donner de consignes. Et le vendredi, c'est la préparation d'avant-match et le samedi du match. Et pour l'aspect mental, bah, je pense que c'est un boulot au quotidien, à travers chaque séance. On a la chance d'avoir un staff de qualité avec beaucoup de monde. Et on a la chance aussi d'avoir un préparateur mental qui peut prendre à tout moment n'importe quel joueur pour l'aider à progresser là-dessus.
Pour conclure, j'ai cherché à savoir quel profil avait le plus de chances d'accéder au centre de formation, puis au monde professionnel.
Il n'y a pas forcément de profil adéquat, mais il y a le profil du joueur qui est sérieux. Le profil du joueur qui est travailleur. Ce garçon-là, il a beaucoup de chance d'y arriver parce qu'il saura que bah, pour y arriver, il faut bosser plus que les autres. Donc avec le travail, et bah, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Et le mode professionnel aujourd'hui demande beaucoup d'exigences. Et seul celui qui est exigeant avec lui-même, seul le joueur qui est aussi passionné pourra y réussir.
Passion et exigence, voilà deux qualités essentielles que tu as, Emilien. J'en suis sûr. Je vais t'interviewer pour qu'on en apprenne plus sur toi. Comment tu es arrivé là ? Les difficultés que cela représente et ce que tu souhaites. Comment es-tu arrivé à Nancy ?
Bah, moi, je suis passé par plusieurs clubs. J'ai commencé au BCV à l'âge de 6 ans. J'ai commencé tout de suite gardien. J'ai trouvé que c'était un poste intéressant. Ensuite, j'ai passé 5 ans à Vittel et je suis parti au SAS Épinal. Et 2 ans après, Nancy m'a contacté pour venir jouer là-bas. Maintenant, ça fait deux ans que j'y suis.
Pourquoi Nancy t'a contacté et comment ?
C'était un tournoi. J'avais fait une très grosse performance lors d'un tournoi où était présent l'AS Nancy Lorraine. À partir de ce moment, ils ont commencé à me suivre dans mon cursus.
Comment te sens-tu à Nancy ?
C'est un environnement sportif, mais je trouve que c'est un club pro qui arrive très bien à gérer le sport et le loisir. Enfin, c'est pas un club pro où t'es là que pour jouer. T'as aussi une entente dans l'équipe qui est bien formée, donc on est très bien encadré. Le moment dans le vestiaire, c'est pour nous et voilà.
Quel était ton cursus et qu'est-ce que tu envisagerais pour le futur ?
Mon objectif, c'est de rentrer dans le centre de formation de l'AS Nancy Lorraine, donc à partir de U15. Et à partir de cette année-là, pourquoi pas aller dans l'équipe première de l'AS Nancy Lorraine.
Comment t'arrives à gérer foot et école ?
Bien, c'est un peu compliqué au début, parce que tu dois faire les devoirs pendant les permes, tu dois aussi révisiter le son pour les évals du lendemain dans la voiture. Et après l'entraînement, t'es un peu fatigué. Ensuite, je rentre vers 20h30 et je dois manger. Donc, à partir de la quatrième, ça devient plus facile parce que j'ai l'expérience.
Comment gères-tu les moments difficiles ?
J'en ai connu plusieurs. J'ai eu deux blessures au bras lors de mon pic de niveau. Donc, ça m'a un peu gêné sur ma progression. J'ai réussi à bien revenir et puis c'est passé l'épisode du Pôle Espoir où je suis allé en finale. Du concours pour l'entrée du Pôle Espoir et j'ai été refusée. C'était un moment très difficile. À ce moment-là, tu te poses des questions. Est-ce que tu dois arrêter ? Est-ce que tu dois continuer ? Et moi, j'ai décidé de continuer et de toujours progresser. Et, maintenant, c'est à moi de leur montrer que j'ai le niveau. Maintenant, cette année, ils m'ont recontacté et je suis invitée au Pôle Espoir.
Merci, Emilien, pour cette interview. Félicitations pour ton parcours jusque-là. Et on te souhaite le meilleur pour la suite.
Merci Ivan pour ces encouragements. Et merci à Monsieur Nabil Tigazoui pour nous avoir apporté tous ces renseignements.
Vive le sport.
Eh oui, vive le sport. En plus des loisirs, certains collégiens ont décidé de s'engager. C'est le cas par exemple des jeunes sapeurs-pompiers que sont Emma et Élise.
Bonjour à tous, moi c'est Élise.
Et moi Emma.
Nous allons vous présenter une passion que nous partageons, les GSP, qui signifie jeunes sapeurs-pompiers.
Nous allons vous expliquer ce que sont les GSP, comment se passe notre formation et quels sont nos engagements.
Nous pouvons être GSP à partir de 13 ans. Nous recevons une formation de 3 à 4 ans pour acquérir les capacités à éteindre un feu et à partir en intervention. Nous suivons notre formation au centre d'incendie et de secours de Vitel-Contrexéville.
Nous avons des cours théoriques, par exemple sur les techniques pour savoir comment lutter contre un feu ou encore sur les premiers gestes qui sauvent. Nous avons aussi des cours pratiques comme des manœuvres avec du vrai matériel. Nous faisons également du sport pour travailler la cohésion et pour renforcer nos muscles. Plusieurs fois dans l'année, nous avons des événements comme le cross des GSP ou des sensibilisations sur des sujets divers, par exemple le courageux combat d'Antoine.
À la fin de ces 3 ou 4 années, nous recevons le brevet des cadets. C'est un concours avec 2 épreuves écrites, 4 pratiques et 4 sportives. Cela permet de déterminer si nous avons les compétences requises. Si c'est le cas, nous pouvons devenir sapeurs-pompiers volontaires.
Au GSP, nous apprenons l'esprit d'équipe, la cohésion, le partage et le respect. Parce que quand nous partirons en intervention, on ne sera jamais seul. Il faut apprendre à travailler ensemble pour être le plus efficace possible.
Maintenant, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons voulu devenir GSP. Moi, c'est la présentation qui a été faite au collège. J'ai tout de suite accroché parce que ça m'a donné envie d'en apprendre plus. Comme je suis sportive, je me suis dit qu'être GSP me correspondait totalement.
Et pour moi, ma mère est pompier, donc j'ai grandi avec les pompiers. À l'âge de mes 10 ans, j'ai commencé à jouer le rôle de victime pour des manœuvres. Cela m'avait beaucoup plu, donc j'avais envie d'en savoir plus. Le sujet des pompiers m'a toujours intéressée, parce que je voulais faire comme ma mère, et maintenant que j'ai l'âge pour être GSP, je fais tout mon possible pour réussir.
Pour conclure, être GSP nécessite beaucoup de travail et de responsabilité. Il faut respecter les ordres et la hiérarchie, avoir une passion et être assidu pour réussir.
N'hésitez pas à vous inscrire, c'est passionnant, et on recherche toujours des volontaires chez les pompiers.
En effet, les sapeurs-pompiers sont 78% de volontaires. On a donc besoin de vous. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous auprès d'une caserne de sapeurs-pompiers ou sur le site pompiers avec un s.fr. Allez, après l'effort, le réconfort, passons à une chronique 100% plaisir, 100% détente, avec une analyse personnelle de la série à succès Stranger Things, écrite par Liam et dite par Adrien.
Salut les sérivores, c'est Adrien. Je lis la chronique de Liam car il est malheureusement absent. Je vais vous présenter et vous donner mon avis sur une série Netflix qui a connu un succès international, Stranger Things. Cette série mélange science-fiction, horreur et fantastique. Tout commence lorsque Will Byers disparaît en rentrant chez lui à vélo, après une partie de Donjons et Dragons avec ses potes, Mike, Dustin et Lucas. Ils vont découvrir qu'un laboratoire voisin mène des expériences secrètes sur une fillette dotée de pouvoirs psychokinétiques et qu'un portail vers l'Upside Down, une dimension parallèle dangereuse, a été ouvert. Ce que j'aime dans cette série, c'est la tension qui est présente dans chaque épisode. On ne sait jamais ce qu'il va se passer et on est très souvent surpris. La musique et l'ambiance nous plongent dans l'univers effrayant de la série. Je vous propose un extrait de la bande-annonce pour que vous puissiez vous faire une idée.
C'est quoi tout ça ?
Tu connais Will ? Est-ce que tu sais où il est ? Caché. Pour échapper à qui ?
Possible que Will ait été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir.
La musique renforce l'ambiance flippante de la série. Les personnages sont vraiment géniaux et attachants. C'est vraiment une série que je vous recommande. Je regrette vraiment qu'elle soit terminée. Mais rassurez-vous, plusieurs spin-offs, c'est-à-dire des séries dérivées, sont en cours. On va notamment retrouver à partir du 1er juin l'animation intitulée Tale from 85. À bientôt les sérivores.
Cette série donne vraiment envie. Pas étonnant qu'elle ait battu record sur record. Avant de terminer cette émission, nous allons poser quelques questions à notre journaliste partenaire pour savoir ce qu'il pense de ce projet et de notre travail. Comme je vous l'ai annoncé au début de cette émission, nous interrogeons tout de suite le journaliste d'ici Sud Lorraine qui nous accompagne, Monsieur Collin. Monsieur Collin, vous avez accepté de suivre notre équipe dans le cadre du projet Fabrique ton média. Que pensez-vous du travail que nous avons accompli ?
Bah déjà, je suis très étonné et surpris de ce que vous avez fait parce qu'en peu de temps, déjà vous avez bien travaillé et le rendu antenne, on appelle ça un rendu antenne, est excellent parce qu'on a des gens passionnés, on écoute des gens, il y a des micro-trottoirs qui sont intéressants. Vous parlez à la fois des sujets graves comme la maladie et des sujets un peu passionnants comme des jeunes pompiers ou bien le sport. Et tout ce que j'ai écouté, c'est vraiment intéressant à écouter.
Vous nous avez consacré 6 heures de votre temps et nous en remercions. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec nous et de nous consacrer tout ce temps ?
Je pense que c'est très intéressant pour vous de voir un petit peu l'autre côté du média, parce qu'on est, on consomme des médias, souvent c'est sur son téléphone portable maintenant, mais voir que c'est un peu compliqué d'aller chercher des gens, de trouver des interlocuteurs, de trouver les bons mots, et vous avez tous su trouver les bons mots et bien les dire, c'est important de montrer que c'est un peu compliqué pour mieux comprendre après, pour mieux appréhender l'actualité, parce que suivre l'actualité, ben, c'est savoir dans quel monde on est, dans quel monde, savoir si une guerre risque d'arriver, savoir pourquoi il y a des changements politiques, pourquoi économiquement ça peut être compliqué. Et tout ça, ça s'apprend et ça s'apprend. C'est un boulot de citoyen et je pense que s'informer, ça reste très important aujourd'hui.
Je vais finir par une question générale mais essentielle. En quoi trouvez-vous que ce projet de production de médias accompagné par un journaliste est utile pour les jeunes ?
C'est utile pour vous parce que ça vous permet déjà de prendre aussi confiance en vous, parce que j'ai écouté plein de voix qui au début étaient un petit peu hésitantes, tremblantes, voire très réservées. Et après, il y a des gens qui se sont affirmés au micro et ça, c'est plutôt bien. L'oralité, c'est aussi important pour toute votre vie, après, soit professionnelle, soit personnelle, parce que c'est comme ça qu'on discute avec les gens, et c'est important. Et ça s'apprend un petit peu, savoir ne pas avoir trop peur du micro, savoir un petit peu s'affirmer. Et là, j'ai entendu des jeunes gens et des jeunes filles et des jeunes hommes qui se sont affirmés. Ça fait, voilà, et ça permet aussi de s'affirmer dans la vie de tous les jours. C'est pas simple. Tout le monde ne sera pas journaliste dans ceux qui sont essayés, même s'il y a peut-être des gens qui pourraient le devenir. Mais en tout cas, ça vous permet de vous affirmer dans la vie. Je pense que c'est aussi important.
Merci beaucoup, Monsieur Collin, pour toutes les informations que vous nous avez données et à l'aide que vous nous avez apportée pour la réalisation de cette émission. Ce travail de production de médias est idéal pour comprendre l'intérêt du métier de journaliste et comment est faite l'info. Merci, Monsieur Collin. Ce fut un réel plaisir que vous nous accompagniez dans ce projet. J'en profite également pour remercier nos professeurs, Madame Chomlefel et Monsieur Gavinier. Évidemment, cette émission ne serait rien sans la merveilleuse équipe qui m'accompagne, l'exceptionnelle classe de 4e 3. Merci à vous, chers auditeurs. J'espère que cette émission vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve dans un prochain hebdo de la School Radio. Quant à mes camarades, vous les retrouverez peut-être dans un autre projet radiophonique. Travaillez un peu, détendez-vous et amusez-vous beaucoup. C'était Fabrique ton média par les 4e 3 du Collège de Vittel. Bye bye.
Média, une émission spéciale.